Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons notre série concernant quelle est la suprême intention. Quelle est la suprême intention? Le titre pour aujourd'hui sera « L'amour mis au point ». Nous avons suivi attentivement le programme du Père en vertu duquel ses enfants sont amenés à l'état de fils mûr et responsable. Nous avons vu qu'en ce qui les concerne, les moindres vestiges d'anarchie doivent donc être liquidés avant qu'ils puissent être revêtus d'autorité et avoir part au trône de l'univers. Cependant, avant que le corps de Christ puisse vraiment exercer sur le monde une influence déterminante et être prêt pour la suprême révélation, une chose encore doit se passer. Et cette condition complémentaire, une fois réalisée, sera la preuve péremptoire du changement de la captivité humaine. Nous reprenons dans cette étude le sujet de la rectification, c'est-à-dire le changement. Voyons donc un peu ce qu'est l'amour mis au point. C'est toujours avec joie que je reviens à l'histoire d'amour du Cantique des Cantiques de Salomon. Mais ce ne fut que lorsque un ami me donna la clé de ce livre que j'ai pu saisir, enfin, que j'ai pu saisir la façon de comprendre cette leçon qui est cachée, et que Dieu cherche maintenant plus que jamais à nous donner la clé. La version courante ne donne pas le sens clair du verset 4 du chapitre 2. Dans la version latine, la Vulgate, voici ce que nous avons. Il est dit « Il m'a fait entrer au pressoir et a mis l'amour au point au-dedans de moi. » La comparaison avec d'autres versions confirme que c'est bien là le sens exact, bien qu'à première vue, il paraisse quelque peu énigmatique. Est-il possible que ce livre si plein de grâce ait été mis dans la Bible pour nous enseigner une rectification, c'est-à-dire un changement de l'amour? Le récit nous présente l'intime communion qui unit la bien-aimée à son futur époux. Elle nous fait voir comment l'amour de la fiancée s'élève. Elle s'élève d'un plan à un autre pour arriver enfin à sa plus pure expression. Le Cantique des Cantiques nous dit « Il est à moi » chapitre 2, verset 16 « Ou je suis à lui » chapitre 7, verset 11. Dans les premières scènes de l'histoire, la fiancée est remplie d'amour pour elle-même. L'amour semble être pour elle une relation à sens unique dans laquelle l'important c'est moi ou à moi. L'amour est sans doute partout le même, à son degré initial, bien sûr. Il est marqué par un sens de propriété, un sens de possession qui donne le ton à tout ce qu'il fait. Au chapitre 2, nous entendons la jeune fille. Elle donne le premier compte rendu de leur rapport. « Mon bien-aimé, dit-elle, est à moi, et je suis à lui. » Chapitre 2, verset 16. Elle paraît beaucoup plus consciente de ce qu'il fait pour elle, qu'elle n'est consciente de sa personne à lui. Elle interprète tout, lui compris, selon qu'elle est personnellement touchée. Hélas, elle est bientôt malade de cette sorte d'amour. Le fiancé ne s'y trompe pas et il se retire. Pour son bien à elle, évidemment, il ne doit pas alimenter cet égoïsme. Donc sa sagesse produit un changement dans la situation. Il y a une progression et une purification dans l'amour de la bien-aimée. Elle finit par dire « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. » Chapitre 6, verset 3. L'ordre est maintenant inversé, mais il y a toujours un mélange. C'est donner tout d'abord et obtenir. Donner pour mieux obtenir. Cependant, maintenant, elle est un peu plus sensible. Sensible à sa personne que à ses dons. Et elle est soucieuse de le satisfaire. Plus tard encore, une fois le test de l'amour passé avec succès, elle est amenée finalement à la troisième phase. L'amour est purifié et mis au point. Elle s'écrit « Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. » Chapitre 7, verset 11. C'est donc l'amour parfait que nous avons ici maintenant. L'amour ne cherche pas uniquement son profit, son intérêt. Il n'est pas avide. Il est sensible à ce qui concerne l'autre et donne toujours joyeusement. Qu'en est-il des chrétiens ? Le genre d'amour offert par une multitude de fils et de filles de Dieu peut s'observer dans le caractère de leurs prières. Souvent même, 20 ans après la conversion, les prières sont encore remplies du « moi ». Tout doit être que pour moi. L'accent continue à être mis sur la bénédiction que nous désirons obtenir, et c'est uniquement pour notre propre satisfaction que nous implorons Dieu. Beaucoup n'ont jamais eu avec Dieu ces rapports d'amour véritables qui font vivre tout entièrement, donc vous avez bien compris, qui font vivre absolument tout et entièrement pour Dieu. Il y a donc 3 degrés d'amour. Et le fameux docteur A.W. Tozer, ou Tozer, éditeur de l'Alliance Witness, mentionne 3 degrés d'amour. Il fait d'abord remarquer que la plupart des penseurs chrétiens admettent 2 types d'amour seulement. L'amour basé sur la reconnaissance et l'amour basé sur les mérites. L'amour qui a sa source dans la reconnaissance se rencontre dans des passages comme le psaume 116, verset 1. Là, il est dit « J'aime l'Éternel, car il a entendu ma voix et mes supplications. » Et nous avons la première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 19, qui nous dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » C'est là une sorte d'amour tout à fait juste et légitime, et que Dieu a gréé, bien qu'il soit une des émotions religieuses les plus élémentaires et les plus dépourvues de maturité. L'amour qui est le fruit de la gratitude éprouvée, et cela pour des faveurs, et de plutôt de nombreuses faveurs reçues, ne peut pas ne pas avoir en lui un élément d'égoïsme, soyons sincères. Il y a là quelque chose de la première attitude de la fiancée dont l'amour n'est provoqué, semble-t-il, que par les avantages qu'elle reçoit et qui paraît ne pouvoir exister sans eux. Mais il y a une espèce supérieure d'amour que le docteur Totzer décrit comme l'amour inspiré par les mérites. Cet amour-là a sa source dans l'impression faite par ce qu'il a de glorieux en Dieu et contient un important élément d'admiration. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa bouche n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10 et le verset 16. Nous avons donc ici la seconde étape de la rectification ou le changement chez notre bien-aimé. Cet amour des perfections divines diffère de l'amour inspiré par la reconnaissance en ce que ses mobiles sont plus élevés. L'élément d'égoïsme y est réduit presque au point de disparaître. Nous devons noter cependant que les deux types ont quelque chose en commun. Tous les deux peuvent donner les raisons de leur existence. Or, l'amour qui peut offrir une justification est un sentiment rationnel et n'est pas encore parvenu à un état de pureté complète. Ce n'est pas l'amour parfait. L'auteur décrit ensuite ce sommet que l'amour doit atteindre dans le cœur de la fiancée. Nous devons apporter à Dieu un amour qui va plus loin que celui qu'inspire la reconnaissance ou les mérites. Il existe une étape avancée de l'amour qui dépasse ces deux-là. Sans quitter le niveau simplement humain, il est assez commun de trouver un amour qui s'élève au-dessus de la reconnaissance ou de l'admiration. La mère d'un enfant anormal, par exemple, peut vouer à son malheureux enfant un attachement sentimental presque impossible à comprendre. Dans le cœur de sa mère, cet enfant n'éveille aucune reconnaissance car les bienfaits ont toujours été à sens unique. le pauvre petit, infirme dès la naissance, n'a jamais été qu'un fardeau très lourd, et la mère ne pourrait trouver chez un tel enfant aucune perfection à admirer, car il n'y en a aucune. Pourtant, voyez-vous, son amour est quelque chose à la fois de merveilleux et de terrible à contempler. La tendresse de ses sentiments a absorbé l'enfant à son être propre, et cela à un point tel qu'elle se sent un avec lui. Tout ce que nous pouvons dire à ce sujet se ramène à ceci, c'est que dans ce type supérieur d'amour, il faut bien le dire, il y a un élément qui échappe à toute explication raisonnable, qui ne peut pas et n'essaye même pas de justifier son existence. Il ne dit pas « j'aime » parce que, car l'amour parfait ne connaît pas le parce que. Je répète, il ne dit pas « j'aime parce que ceci et cela », car l'amour parfait ne connaît pas le parce que. Dans le cœur de tous ceux qui sont à lui, à Dieu, c'est une semblable mise au point de l'amour que Dieu va finir par réaliser. Vous vous souvenez comment il a amené Job à dire « Quand même il me tuerait, je me confierais en lui. » Job, chapitre 13, verset 15, selon la version allemande. Il n'y avait pas de « parce que » dans l'amour de Job. Je répète, il n'y avait pas de « parce que » dans l'amour de Job. S'il avait été amené à une attitude de complet abandon, c'est qu'il en était venu à savoir vraiment qui est Dieu. Comme Job, chacun de ceux qu'il a choisis appartiendront à Dieu par un lien d'affection qui les attachera à lui simplement parce que c'est Dieu. Exactement comme Dieu est disposé à appartenir à l'homme comme étant son Dieu sola gratia, uniquement par grâce. Ainsi, chaque membre du corps de Christ appartiendra à Dieu sur la même base, sans que se pose aucune question de contrepartie. L'épouse doit donc aimer sans viser sur l'avenir. Quand nous pensons que l'Église doit être préparée pour son Seigneur comme une épouse sans tache, nous nous demandons si ce n'est pas cela qui inspire les premiers chrétiens, par exemple les prières de saint Paul dans les premiers chapitres aux Éphésiens. Arrivé au milieu du chapitre premier, nous prenons nettement conscience que saint Paul avait le cœur chargé par un besoin particulier qu'il discernait chez eux, désirant ardemment voir l'Esprit Saint de Dieu le révéler. Il nous semble percevoir le gémissement de son esprit, tandis que par deux fois sa prière monte vers le ciel pour que le Père leur accorde la vision de ce qui leur manque, c'est-à-dire la vision de l'épouse. Pour les aider à y parvenir, dans les 14 premiers versets du chapitre 1er, saint Paul leur brosse un tableau panoramique de l'intention suprême qui était dans le cœur du Père depuis toujours. Commençant avec le Père, saint Paul le rappelle, il le rappelle son dessein de se constituer une grande famille tout d'abord, et qu'elle soit faite la lumière sur la manière dont ils ont été marqués pour devenir des fils, et qui montre comment tous ces plans se réalisent par le Seigneur Jésus-Christ, et que c'est par lui que nous recevons toutes les bénédictions spirituelles, telles que le pardon, l'accueil, l'adoption, la rédemption et le sceau du Saint-Esprit. Saint Paul fait allusion à ces choses comme étant notre héritage. Éphésiens chapitre 1, verset 14. Nous ne devons pas le sous-estimer, cet héritage. Attention, car c'est pour le Père une joie que de partager avec sa famille. Quand l'homme tomba dans le péché, il assura notre relèvement par la mort et la résurrection de son propre Fils. Mais la grande préoccupation de saint Paul, ce n'est pas tant ce que nous sommes destinés à recevoir de Dieu dans la prière qui s'échappe avec ferveur de ses lèvres. Nous voyons transparaître tout le fardeau de son cœur. Ce qu'il voulait, c'était que les Éphésiens parviennent à un nouveau point de vue. Car jusqu'ici, semble-t-il, ils étaient essentiellement occupés de ce que Dieu avait fait pour eux. Ils étaient heureux de s'arrêter pour jouir de ce qui est à moi. Leur thème, c'était « mon héritage en lui ». Mais la majorité des croyants d'aujourd'hui n'en est-il pas au même point ? Or, il y a, voyez-vous, un autre héritage. Or, au verset Éphésiens, chapitre 1, verset 18, là, nous entendons saint Paul commencer à prier pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur, pour qu'ils sachent quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et non pas qu'il réserve aux saints, comme traduit second, la version second, à tort. Je répète, il est dit, et il devrait être dit, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et non pas qu'il réserve aux saints, comme traduit la version second, à tort. Alors comment amener ces chrétiens à se préoccuper du Père et de ce qu'ils pourraient hériter d'eux et par eux? Comment pourrait-il être rendu sensible aux intérêts de Dieu? Voilà la préoccupation de saint Paul. Malgré tout ce que Dieu a fait pour eux, ils voient toujours les choses à l'envers, centrés qu'ils sont uniquement sur l'homme. Doivent-ils continuer à vivre comme si l'univers entier gravitait uniquement autour d'eux et existait que pour eux? Saint Paul discernait le besoin d'une mise au point de leur amour, d'un retournement, d'une inversion de leur captivité, et cela afin qu'ils vivent véritablement pour Dieu et deviennent son héritage. Je répète, saint Paul discernait le besoin d'une mise au point et de leur amour, une mise au point de leur amour, d'un retournement nécessaire, d'une inversion, qu'on peut dire, de leur captivité, et cela afin qu'ils vivent véritablement pour Dieu et deviennent ainsi son héritage. Dernièrement, alors que la voiture nous conduisait à une réunion du soir, un père de famille m'ouvrit son cœur en me disant « Plus j'ai donné à mes enfants, plus ils en veulent toujours. Comment dois-je m'y prendre pour leur aider à voir leur égoïsme ?» Bien que sa famille lui fût chère, il pouvait discerner où et comment qu'elle était égocentrique, concentrée uniquement sur elle-même, tandis que les enfants se préoccupaient de ce que le père pouvait faire pour eux. Lui se préoccupait, et comment, beaucoup davantage de l'espèce de gens que ses enfants deviendraient un jour quand ils seraient adultes. Cet homme avait donc découvert une vérité fondamentale au niveau humain, mais il ne se rendait que très vaguement compte que le Père Céleste avait les mêmes problèmes avec ses enfants à lui que nous sommes. Comme mon ami désirait détourner les siens de leur manie de tout rapporter à eux-mêmes, ainsi le Père Céleste a soif de voir ses enfants prendre conscience de leur état et découvrir enfin ce qu'ils sont pour lui. Chers amis, comment une telle révélation peut-elle venir? Notre héritage, c'est sur le fondement de la mort de Christ que nous l'avons reçu. Lorsque nous aussi nous avons reconnu que nous étions morts, morts avec Christ, et que nous nous mettons à marcher en nouveauté de vie, alors le Père commence à entrer en possession de son héritage. De même que dans le cantique de Salomon, l'époux conduit la bien-aimée au pressoir du dépouillement, de la tristesse et de la découverte de son vrai moi, ainsi le Seigneur conduira chacun des membres de son corps à un pressoir. Ce pressoir, c'est l'endroit où il permet à nos bien-aimés, à certaines circonstances, à certaines amitiés, de nous frapper de la souffrance la plus profonde. Dans les Saintes Écritures, le pressoir est toujours symbolique d'une expérience, celle au cœur de laquelle Dieu s'emploie à nous briser, à nous pressurer, à nous traîner d'une situation pénible à l'autre, et cela jusqu'à ce qu'il y ait obtenu le vin joyeux de l'amour purifié. Nous sommes facilement portés à lier de telles expériences à la gloire qui sera la nôtre après coup. Et nous pouvons avec bravoure, en serrant les dents, traversé de multiples épreuves sans jamais comprendre l'œuvre d'amour qui voudrait engendrer la joie maintenant. Mais quand la véritable rectification de l'amour est chose faite en nous, nous nous soucions plus du tout que du parfum doux et agréable qui, au travers de toutes ses souffrances, va se dégager pour lui, pour Dieu, et surtout aussi pour ses enfants. Lui, c'est donc lui, Dieu, Dieu qui devient et doit devenir le centre habituel de notre attention, doit devenir l'objet constant de notre affection. Chers amis, nous voyons clairement ce que Jésus-Christ entendait quand il disait « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Notre vie chrétienne n'est plus une épreuve d'endurance, mais c'est une expérience d'amour débordant, et notre prière constante sera bientôt « Seigneur, montre-moi, oui, montre-moi comment je peux exprimer ce grand amour que tu as répandu en moi. Montre-moi. » En concentrant, chers amis, en concentrant notre vision sur nos propres besoins et en essayant d'avoir la foi pour que Dieu y pourvoie, nous sommes aveuglés à son grand amour et à son grand dessein. Quand nous le laissons nous amener au pressoir, c'est alors seulement que nous le découvrons lui, et nous constatons que nous n'avons pas d'autres besoins, pas d'autres désirs, que de lui appartenir à lui et à lui seul, sans attendre de contrepartie. Je répète, en concentrant notre vision sur nos propres besoins et en essayant d'avoir la foi pour que Dieu y pourvoie, nous sommes aveuglés à son grand amour et à son grand dessein. Et oui, c'est vrai, quand nous le laissons nous amener au pressoir, ça ne nous fait pas plaisir. Mais c'est alors seulement que nous le découvrons, lui, et nous constatons que nous n'avons pas d'autres besoins, pas d'autres désirs, que de lui appartenir à lui et à lui seul, sans attendre de contrepartie. Je voudrais, ou j'aimerais, éviter un malentendu. Il est clair que jamais le Seigneur aimerait que nous soyons malheureux plus que nécessaire. Il ne désire pas que nous soyons malheureux, pas plus que des parents souhaitent le malheur de leurs enfants. Mais il peut arriver qu'un enfant tire toute la couverture à lui et en veut toujours plus, toujours davantage que pour lui seul, et qu'il n'est jamais satisfait et surtout jamais reconnaissant. Alors, chers amis, bien que nous ne soyons pas loin de la fin de cette étude, en nous plaçant au point de vue de Dieu, nous nous apercevons que nous ne sommes en réalité qu'au commencement de ce que Dieu de tout temps, s'était proposé d'obtenir pour lui-même, pour son fils et pour sa famille. Ce fut, ou plutôt ce fait, apparaît, il apparaît avec encore davantage d'évidence à mesure que nous découvrons sa méthode de présentation. Il commence par nous faire voir ce qu'il veut en un modèle réduit terrestre. Il nous aide ainsi à comprendre comment il s'y prend pour obtenir ensuite la réalité céleste dans sa véritable dimension. Nous saisirons le sens de cette dualité en observant comment tout ce que nous avons vu jusqu'ici nous a porté graduellement vers la gloire de l'ultime révélation. Dieu garde le secret sur l'activité qu'il poursuit. Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Mais, ce n'est pas pour toujours. Elle ne nous a paru secrète que parce qu'il nous a manqué certains éléments. Nous n'avons eu la révélation ni de ses principes, ni de son plan, ni de ses méthodes. Nous découvrirons dans cette étude comment tout ce que la Genèse nous présente en miniature se développe jusqu'à atteindre ses véritables dimensions quand nous arrivons à l'Apocalypse. Examinons tour à tour Adam. Adam est le petit royaume sur lequel il était appelé à régner dans le jardin. Or un jour, ce modèle réduit s'épanouira vraiment pour donner le royaume universel de Dieu sur la terre. David sur le trône d'Israël, modèle réduit du plus grand David, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, qui occupera un jour avec son corps, vous avez compris, qui est son corps maintenant, le trône de l'univers, et ensuite le temple de Salomon dans sa magnificence, miniature terrestre du glorieux temple qui est en train de s'édifier en pierre vivante que nous sommes pour sa destinée éternelle. Adam et son épouse, Ève, image en miniature précédant de longtemps la réalité de Christ et de son épouse qui est l'Église. Abraham, le père des croyants, ombre du Père céleste, qui veut avoir une famille éternelle, nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux modèles réduits qui s'épanouirent un jour dans l'immensité de leur céleste dimension. Ils vont s'épanouir, ils s'épanouiront bientôt dans l'immensité de notre céleste dimension. Et nous nous limiterons dans cette leçon à trois d'entre eux, la famille, deuxièmement le corps, et troisièmement le temple. Chers amis, un jour glorieux, que celui qui a pu voir le Seigneur Jésus-Christ, le Fils incarné, apparaître sur la scène de ce monde pour révéler le Père et manifester sa gloire. Mais combien rares furent ceux qui saisirent sans rien en perdre le sens de cette manifestation de Dieu. Même notre ami Philippe, un disciple de Jésus-Christ, pourtant il s'est fait reprendre pour son manque de discernement. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Si tu m'as vu, eh bien, tu as vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Notez Saint Jean, chapitre 14, verset 9. Nous voyons par là que pour qu'une révélation touche le cœur des hommes, il faut, à côté de la vérité, la lumière. Le psalmiste avait écrit « Envoie ta lumière et ta vérité » Psaume 43, verset 3. Et toutes les versions, sauf la version seconde, disent cela. Jésus-Christ parut devant les hommes comme la vérité, mais les hommes avaient besoin que la lumière l'éclaire, lui, Dieu, pour pouvoir se rendre compte de ce qu'il était et de comprendre la révélation qu'il venait apporter, comme l'écrit Vachmani. Il dit « La vérité est complète en Christ, mais nos cœurs ont besoin que la lumière l'Esprit Saint de Dieu soit projeté sur elle. Sans cette lumière, il n'y a pas de révélation. Toute expérience spirituelle découle de ce que la lumière divine a éclairé la vérité éternelle. La vérité prêchée sans la lumière devient simplement une doctrine. Mais avec la lumière, c'est-à-dire avec l'Esprit Saint de Dieu, alors ça change tout. Elle devient une révélation. Elle vient toujours à nous sous une de ces deux formes, nous dit Vachmani. Et quand Jésus-Christ est venu parmi les hommes, il était le Fils de Dieu et il se déclara tel ouvertement, mais le fait qu'il était le Fils unique du Père, ne devint pour les hommes ou est devenu pour les hommes une vérité vivante que lorsque le Saint-Esprit a projeté la lumière sur lui. Il est devenu alors pour eux une révélation, une fenêtre par laquelle on pouvait contempler le Père. Oui, nous pouvons que nous représenter vaguement par les yeux de l'Esprit, ce que sera pour l'univers cette suprême révélation. Si la gloire que contemplèrent ceux qui attendaient la révélation d'un seul Fils fut grande, que sera celle? Écoutez bien, que sera celle qui accompagnera la manifestation du Fils corporatif? Avez-vous compris le mot corporatif? La tête unie à son corps qui est l'Église. Si devant le modèle réduit, les hommes décrièrent avec admiration « Ô Père !» C'est ce qu'ils se sont écriés. Ils ont carrément crier à haute voix, « Ô Père, combien plus intenses seront donc les louanges dont ils feront résonner les parvis célestes ?» Cela, quand la merveille sera révélée dans ses dimensions réelles. Et quelle splendeur ineffable quand le Saint-Esprit baignera de ses rayons, comme il ne l'aura jamais fait auparavant, le Fils, tête de ce corps, l'univers entier, verra cette lumière soudaine resplendir, annonçant la gloire du Père, la gloire du Fils et la gloire du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce là ce que le prophète Ésaïe avait pressenti quand il écrivit « Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive ». Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Ésaïe 60, versets 1 et 2. Oui, c'est à cette lumière-là que la création tout entière reconnaîtra le Fils corporatif, le mot corporatif, chaque fils individuel conformé à l'image du Fils premier-né. Et quand j'ai dit chaque fils corporatif, ça veut dire toutes les Marlise, toutes les Sonia, toutes les Sabine et tous les autres y compris. Et c'est alors que sera donnée la révélation suprême du Père Céleste dont le dessein a été entièrement réalisé. Quel jour de gloire pour toute la création! Car de même qu'un fils s'est avancé un jour, comme libérateur de Sion, ainsi les fils s'avanceront en nombre, comme une force puissante, terrible, et pourtant magnifique. Tous les hommes et les femmes sauront alors que le glorieux libérateur est vraiment, vraiment venu, car ils verront de leurs yeux ceux qui auront été pleinement délivrés et conduits à la victoire suprême. Voici donc l'expectative qui transparaît sous la plume de notre ami saint Paul dans Romains, chapitre 8, versets 19 et 20, la création toute entière est sur la pointe des pieds, attendant de saisir le spectacle glorieux des fils et des filles de Dieu entrant en possession de leur héritage. Le monde de la création ne peut pas encore voir la réalité maintenant, non pas qu'ils choisissent d'être aveugles, mais parce que c'était le dessein de Dieu qu'ils soient ainsi limités pour l'instant. Les ténèbres et l'aveuglement ne seront plus quand l'Esprit Saint de lumière entrera de nouveau en mouvement sur la face de l'abîme et que le jour de la libération se sera levé pour la création tout entière. Chers amis, elle approche cette heure solennelle où toute la pensée divine sera accomplie. Le Père aura enfin sa famille. Le Fils son corps et l'Esprit Saint son temple. Il est difficile à notre entendement humain de saisir et d'associer ces images. Cependant, le grand ouvrage de Dieu, l'Église, devient l'accomplissement de son dessein pour chaque membre de la Trinité divine. C'est encore saint Paul qui écrit « Nous sommes son ouvrage » et ce passage pourrait fort bien se traduire « Nous sommes son chef-d'œuvre ». Ah, ça c'est encore plus qu'une Rolls-Royce. De même que le Père façonne pour son Fils ce corps aux membres multiples, l'habitation de l'Esprit-Saint se trouve également constituée en un tout qui, par son accroissement, devient pour lui un temple saint. Un temple saint qui est aussi la famille de Dieu, le chef-d'œuvre, comme je viens de le dire, de la révélation de lui-même. Chers amis, quand nous portons nos regards sur le peuple de Dieu, sur tous ces accès de découragement, toutes les faiblesses de sa foi, tous les effondrements de son témoignage et toutes les défaites que nous ayons, ou que nous avons plutôt, essayé nous-mêmes dans notre histoire personnelle, eh bien, nous pourrions être enclins à nous demander comment Dieu pourra jamais réaliser la famille qu'il a désirée, comment l'Esprit-Saint parviendra à terminer son temple et comment le Fils pourra jamais devenir la tête de son corps. Souvenons-nous alors que nous devons nous détourner de ce point de vue qui appartient au temps. Car du point de vue éternel, le précieux poème de Dieu est déjà composé, il n'y manque rien. Et si nous apprenons à vivre avec notre Seigneur dans ce qui est éternel, nous verrons comment le futur devient réalité dans le présent. Ainsi donc, ce n'est pas en avant que nous regardons pour découvrir notre but, mais c'est en arrière, oui, dans le cœur du Père, où tout a commencé. Dieu a accompli son dessein en Christ avant même la fondation du monde, et c'est sur cette base que nous devons apprendre à avancer avec lui vers le but final. La réalité suprême, l'absolu, est toujours devant Dieu, nous écrit Vachmani. Et Dieu parle de son Église à la lumière de cette réalité. Dans la Bible, le facteur temps est un des plus gros problèmes posés à l'entendement humain, mais il s'évanouit de l'horizon une fois que nos cœurs ont été éclairés, et cela afin que nous connaissions la gloire de son héritage dans les saints. Voici donc quelle est notre vocation, nous dit Vachmani. Ne nous contentons pas de vivre pour l'absolu, mais vivons dans l'absolu. Alors le dessein de notre vie n'est plus d'atteindre un but qui est situé dans l'avenir, mais c'est de vivre dans une réalité présente, vivante, dont nous jouissons maintenant au même titre que Dieu. Je répète, ne nous contentons pas de vivre pour l'absolu, mais vivons dans l'absolu. Alors le dessein de notre vie n'est plus d'atteindre un but qui est situé dans un certain avenir, mais c'est de vivre dans une réalité présente maintenant, vivante, dont nous jouissons maintenant, aujourd'hui, au même titre que Dieu. Et voyons maintenant la plus importante, on peut dire, qu'occupe la dispensation actuelle. Oui, période durant laquelle ce chef-d'œuvre de Dieu a pris corps. Les siècles passés ont attendu son avènement et ils y ont trouvé leur aboutissement. Et tous les âges qui suivront prendront leur caractère de ce que Dieu est en train de faire maintenant et en subiront l'influence déterminante. Mais que en est-il du siècle à venir? Certains docteurs de l'Église estiment qu'il est tout à fait hors de propos même de simplement mentionner un tel sujet. Pourtant, la Bible n'attire-t-elle pas notre intérêt sur cette question quand elle écrit par exemple « Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, Éphésiens 1, verset 21, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, Éphésiens chapitre 2, verset 7, tout en protestant n'avoir sur ce point aucune révélation personnelle, nous savons que Dieu a promis de se révéler. Dans un sens, nous ressentons ce qu'Israël a dû ressentir quand il parvenait de son poste d'observation de l'Ancien Testament à discerner vaguement, on peut bien le dire, à travers les ombres, ce qui allait arriver dans les siècles postérieurs à la croix. D'après ce que nous comprenons maintenant, nous pouvons voir comment ces siècles passés ont imprimé leur caractère sur le temps où nous vivons, comme ce temps-ci projette une discrète clarté sur ce que nous pouvons attendre au temps où Christ régnera. Ainsi l'Église, si privilégiée qu'elle soit pour la part de lumière qui lui est échue, ne voit encore l'avenir que au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, dans l'attente de l'heure où sa lumière et sa connaissance rempliront la terre comme le fond de la mer est rempli par les eaux qui la couvrent. Gardons-nous donc de jamais limiter Dieu. Il doit sûrement y avoir des hommes comme Abraham qui ont eu le privilège de voir au-delà de leur temps, au-delà de leur temps, la fameuse cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, ou comme Ézéchiel, qui ont eu le privilège de voir le temple, et cela avec le fleuve des eaux de la vie, ou comme Saint Jean, à qui fut accordé le sublime point de vue qui lui permit de porter son regard sur le jour du Seigneur. Mais cela ne nous autorise pas à insister pour obtenir une vision individuelle des temps qui viennent. Nous devons nous contenter de sonder les Saintes Écritures et de recevoir l'intelligence que l'Esprit Saint veut bien nous donner pour comprendre ce qui nous est dit de l'avenir. Si nos yeux ont été ouverts pour embrasser ne serait-ce qu'une petite fraction de l'intention suprême de Dieu présentée ici, l'aperçu que nous en aurons suffira pour faire tressaillir nos cœurs et stimuler en nous la détermination de vivre livrés et consacrés comme jamais auparavant. Amen. Ainsi soit-il, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons terminer par la prière ensemble. Prions. De faibles et mortelles créatures ne peuvent, Seigneur, t'adresser leur hommage et leur prière qu'en s'abaissant profondément devant toi dans un véritable sentiment d'humilité. Que ce soit donc ainsi qu'en ce moment, nous venions te rendre grâce et t'implorer, toi, notre Dieu et notre Sauveur, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais tu as daigné nous accorder la grâce si précieuse de reconnaître que c'est toi qui as envoyé ton Fils pour nous racheter de la condamnation et nous faire obtenir la félicité des cieux. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Voilà, Seigneur, ce que nous voyons s'accomplir sans cesse autour de nous. Les enfants du monde haïssent la lumière parce que leurs cœurs sont mauvais. Oui, l'aveuglement et le péché subsistent. Comment échapper à ce danger? Qui pourra nous préserver d'imiter de si funestes exemples? Comment éviter l'ivresse de l'amour du monde, l'aveuglement qui ne permet pas de voir l'abîme qui est ouvert sous nos pas? Réfléchir sérieusement en ta présence, Seigneur, penser à la fin inévitable de toutes choses et à l'avenir éternel qui nous attend. Implorer ton secours et ta miséricorde, tels sont les moyens que tu mets à la portée de tous pour lutter contre de fatales influences. Seigneur, aide-nous à en faire usage, aide-nous à venir à la lumière en agissant selon la vérité. Et donne-nous aussi, Dieu tout bon, le désir de te prier pour tous ceux qui persistent à demeurer dans l'aveuglement, qu'ils soient saisis de crainte et touchés de repentir avant que leurs yeux s'ouvrent dans l'éternité, afin que tous embrasse le royaume qui ne peut être ébranlé, nous conserverons la grâce par laquelle nous puissions servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et avec crainte. Seigneur, daigne recevoir notre humble prière au saint nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Et chers amis, merci pour votre attention, d'écouter ces études pas toujours faciles. Et demain, Dieu voulant, vous aurez la suite de cette série. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.